CISO vous offre les sorties du vendredi.
Il vient nous voir à chaque été aux sorties du vendredi.
Oui, monsieur.
Marcel Leboeuf, salut, comment vas-tu?
Très bien, toi?
Ça va très bien aussi. Oui. Marcel, tu devais avoir un été sur les planches. C'est pas le projet que tu étais supposé jouer.
Non, ça, c'est la vie de ce métier-là. Hein? Dans la vie, de toute façon, de n'importe quel métier, de n'importe qui, il y a des fois, tes plans changent radicalement. Puis avec la pandémie, ben qu'est-ce que tu veux? C'est ça que ça a fait. Moi, depuis dans les 10 dernières années, je gagnais ma vie en faisant que du théâtre. Fait que ça fait 10 ans que moi, j'ai pas vraiment fait de TV, tu sais. Fait que donc, ça arrête, ça. Tu fais quoi, là, tu sais? Fait que c'est bien beau faire de la livraison, de la jus, de la confiture, puis du beurre d'arabe, mais à un moment donné, moi, je m'ennuie de mon métier, là, je veux le faire.
C'est bien ça.
Quand, au mois d'octobre dernier, j'apprends que mon show d'été, parce que je devais jouer la pièce Toc Toc à l'Assomption, alors quand j'ai appris que c'était annulé... Là, j'ai rappelé mes deux producteurs, André Rupiter et Mario Provencher, puis je dis, les gars, si je faisais un one-man show, ça vous tendrait-tu de me produire ça? Ils ont fait yes. Alors, c'est comme ça que c'est venu au monde. On a loué le petit théâtre de Belleuil au Centre culturel pendant 3 mois, et c'est Luc Sonnet qui a fait ma mise en scène. Puis là, ben, j'ai raconté toutes mes affaires à Luc, tu comprends bien, à moi et donc, puis là, on s'est fait une ligne de conduite, si tu veux, puis un fil directeur. Et puis, c'est ça. Puis, j'ai rajouté là-dedans des chansons. Ça me tentait de chanter. Écoute, je fausse pas. C'est déjà un bon point. Et puis, mais j'avais le goût de ça. Puis, de rendre ça aussi. Puis, c'est théâtral, ça. Donc, c'est comme ça que je me suis, comment dire, viré Sainte-Seine.
Est-ce que c'était un souhait de longue date, le one-man show?
Ça fait longtemps que j'avais ça, mais... Je me calmais un peu le pompon avec ça parce que ça fait 20 ans que je fais les conférences. Puis une conférence,
c'est un one-man show.
Qu'est-ce que tu veux? T'es en représentation. J'ai déjà eu 3 personnes devant moi pour un petit cabinet de comptable. Puis j'ai déjà eu 2500 personnes devant moi. Fait que, tu sais, j'ai fait ça dans des shops. J'ai fait ça dans des salles d'urgence. Écoute, j'ai fait ça partout. Donc, de le faire avec... Tu sais, une conférence, tu te dois, je pense, de raconter des choses qui sont vraies.
Hein?
Je veux dire, on te demande, si tu parles d'expérience, ça, tu racontes des affaires, t'es pas dans la théorie.
Non.
Un show de théâtre, on s'en fout. C'est tout vrai ce qu'il raconte, on s'en fout. Tu sais, c'est du théâtre.
Oh, oui.
Je me lâche un peu lousse par rapport à ça.
Et il y a de l'impôt, c'est ce que je comprends aussi. Tu gardes la possibilité d'improviser un peu.
Tu sais, moi, j'en ai fait pendant 18 ans de temps. J'ai fait la LNI presque dans ses débuts. J'ai commencé à jouer au jeu d'improvisation de la Ligue nationale d'improvisation en 78, donc un an après la création.
Ouais.
Fait que, écoute, moi, là, je suis... Alors, j'ai fait ça pendant 18 ans de temps. J'en ai fait tous les bords, de l'impro, tout ça. Puis le fait de me retrouver tout à coup tout seul sur une scène de théâtre, tu me connais, tu le sais, je m'emporte, je me mère, j'ose, puis on va y donc, tu sais. Puis, fait que je me surprends moi-même à être heureux sur scène.
Mais est-ce que tu aimes ça, retourner à l'impro un peu? Même s'il y a un texte, même s'il y a un canevas, une fois de temps en temps, de décrocher de ça.
Oui, j'aime ça. Puis, tu sais, l'idée, c'est pas. Je ne pars pas dans une affaire qui
on
va durer
pas
15 minutes.
Ouais,
c'est ça, parce que, quand même, il faut respecter. Il y a quand même un temps. Là, tu sais, la tête ne peut pas en prendre plus que ce que les fesses peuvent prendre. Là. Fait que, mais j'aime ce feeling-là. J'aime le feeling de. Tu dis une phrase, puis il y a une réaction. Elle vient, puis des fois, les phrases, ils viennent de me popper dans la tête. Tu sais, je veux dire, c'est comme en impro. C'est comme quand je jouais à la LNI. C'est la même affaire. Tout à coup, il y a de quoi qui devient flac. Pourquoi tu as dit ça? Tu le sais pas trop. C'est là. C'était là, puis tu as une réaction qui est forte. C'est comme de devancer la réaction. Tout à coup, c'est comme si ton cerveau il se met en mode, je sais qu'il va y avoir une réaction au bout de là. Tu espères toujours bien qu'il y ait une réaction là. Alors, quand la réaction est forte,
ah oui.
Au bout de ce que tu viens d'inventer, c'est formidable.
Est-ce qu'il y a un côté trillant dans cette mise en danger-là, un peu? Parce qu'un spectacle en gang, s'il arrive quoi que ce soit, ben, il y a quelqu'un avec qui on peut se relancer, une écoute, il y a un esprit de troupe.
Mm-hmm.
Là, tu es tout seul. S'il arrive de quoi, tu es vraiment tout seul.
Écoute, je vais te dire que ça faisait Le premier show que j'ai fait, là, parce que j'ai commencé à le jouer, mon show, là, j'ai commencé ça, je crois, le 16 mars. Peu importe, c'est au mois de mars, OK? À Rouen. Alors, quand je me suis retrouvé sur la scène, là, après, ça faisait ça faisait un an, tu sais. Puis on savait pas si on allait retourner sur scène. Tu sais, ça regardait pas bien, une secousse-là, tu sais. Mm-hmm. Puis là, tout à coup, là, il y avait 90 personnes dans la salle qui applaudissent avant même que tu rentres parce que je savais que sont contents d'être là. Tu comprends? Et là, j'étais ému, mon gars, là. C'est de retrouver le... C'est ça que j'aime dans la vie. C'est ça mon travail, moi, dans la vie. T'sais? Et là, de me retrouver avec du monde, ce contact-là, t'as pas un zoom, tu comprends-tu?
Ouais.
On était comme le nouveau mot que tout le monde en a pris, on était en présentiel. Fait que, c'était formidable. À chaque fois que je le fais, là, ça fait une dizaine de fois, je suis tout le temps ému. Là. À un moment donné, je vais me calmer le pompon, là. Mais à chaque fois, là, je suis tout le temps ému parce que c'est fabuleux, c'est fantastique.
Est-ce qu'il y a un côté touchant au fait que les gens choisissent maintenant toi? Tu sais, généralement, ben, par exemple, Ladies Night, ben, les gens vont voir Ladies Night. Il y en a qui viennent pour toi, il y en a qui viennent pour François Chénier, pour Guillaume, peu importe. Mm-hmm. Il y en a qui viennent pour le show parce que c'est le succès. Là, c'est un show de toi, tout seul sur scène. Donc, les gens qui viennent, c'est des gens qui t'aiment.
Oui, j'espère que c'est pas le monde qui achète des tickets de maillir. Mais non, ça, t'as raison. Ça, c'est hyper touchant aussi. Puis avec tout le temps une petite inquiétude, parce que tu te dis, le monde, ils vont-tu venir? T'sais? Mais... moi, je fais confiance. C'est le même phénomène que quand j'ai commencé mes premières conférences. C'était, je faisais des soirs, des salles. C'était le monde. Il achetait des tickets. Je ne sais pas, tu sais. Puis des fois, il y a des places que j'ai faites, là. Il y a des soirs, mettons, une salle de 300 places. Il y avait 50 personnes. Première fois que j'y allais, tu sais. Mais les 50 adoraient ça. Et là, je disais à la personne, fais-moi revenir, mettons, dans 3 mois. Je te le dis, on va être plein. Et c'est ça qui arrivait. Parce que les 50, c'était le bouche-oreille qui avait cote. Alors donc, il se peut, parce que tu sais, Marcel Leboeuf, un one-man show, qu'est-ce qu'il peut bien raconter, tu sais? Mais c'est du bonheur. Je vous le dis, là, c'est du gros bonheur, là. Vous allez sortir heureux et heureux de mon show. Je passe par toutes sortes de gammes d'émotions. Je raconte toutes sortes d'histoires. J'ai développé ça. Je pense que je suis un pas pire conteur. J'aime bien raconter mes affaires, tout ça. Puis... c'est ça, tu sais, c'est vraiment le fait de m'être donné un coup de pied à bonne place, de me dire, arrête de le dire tout le temps que tu vas te faire ça un jour, un one-man show, il fallait. Là, la pandémie arrive, c'est le temps, là, tu comprends? C'est le temps de faire ça, tu sais, puis ça me permet de parler aussi. Je parle de ma mère, je parle de mon père. Moi, j'ai perdu mon papa l'été dernier, le 3 août 2020. Mon père, il est pas mort de la COVID, mais il est mort du confinement. Parce que papa, pendant 3 mois, 94 ans, empêché de marcher. Mon père prenait des marches, ça. Fait que le système, c'est pas long que, tu sais. Et mon père a fait des crises d'angine, mais il voulait pas nous le dire. Fait que c'est un de mes frères qui a découvert que papa, les lèvres, ils ont épaissi, puis il dit qu'il a mal au ventre tout le temps, puis brûlement d'estomac, tout ça. Puis, fait que mon frère a pas pris de chance, il l'a amené à l'hôpital, à Cité de la Santé. Puis là, ils ont dit, Monsieur Leboeuf, vous avez fait un infarctus. Fait que là, ils l'ont gardé pendant 8 jours, mais malheureusement, au 7e jour, il a fait un AVC foudroyant, puis il est parti. Mais il a quand même été avec nous autres 94 ans. Mon père a eu une vie formidable. Ces 2 dernières semaines qui ont été de la marde, mais sinon, ça a été 94 ans d'épreuves, bien évidemment, comme des vies, ça, mais de grand bonheur. Puis moi, ce qui me rassure, c'est que mon père, il est retourné voir ma mère. Il est retourné avec ma mère, tu sais.
Est-ce que d'en parler dans le spectacle, ça te rend émotif?
Les premières fois, oui, ça me rendait émotif, mais en même temps, c'est des cadeaux que ces gens-là m'ont fait, tu sais. Mon père, ma mère, c'est des cadeaux qu'ils m'ont donné de leur temps, etc. Ils ont mis beaucoup d'énergie sur moi, sur mes frères, tout ça. Et puis qu'aujourd'hui, je puisse parler de certaines choses sur scène, c'est fabuleux. Tu sais, c'est ma façon de leur rendre hommage, de les remercier, tu sais, pour ce qu'ils ont fait pour nous autres.
T'as quoi leur réaction face à ton choix de carrière, tes parents?
Hey boy! Tu sais, moi, j'ai eu des parents formidables. C'est sûr que quand je les ai annoncé ça, devant moi, ils ont fait « Yes! » Mais quand ils ont Je me suis retourné, ils ont dû faire Surtout que mon père travaillait pour les chemins de fer. Papa était agent de station. Il travaillait pour Canadien National. Puis ma mère, elle s'occupait de nous autres, maman, tout ça. Fait que, tu sais, ce métier-là, eux autres. Alors, la réaction de mon père, ça a été pas. Quand j'ai annoncé ça, là, j'ai vraiment attendu un bonsoir.
Quitte bonne humeur.
Là, je disais un peu, il faut m'attendre qu'il soit de bonne humeur, tout ça. Puis là, ben, je les ai fait asseoir parce que je me suis dit, si on est tombé, ça va être moins. Puis là, j'ai dit, papa, maman, je sais ce que je veux faire dans la vie, je veux devenir un comédien. J'avais 18 ans. Et là, mon père, il a regardé ma mère. Après ça, il m'a regardé. Puis là, il a dit, je te le dis là, textuellement. Il m'a dit, Marcel, ta mère puis moi, ce qu'on veut pour toi, mon gars, dans la vie, c'est que tu fasses ce que tu vas aimer.
Wow.
Aïe, aïe. Que mes parents soient avec moi quand j'avais 18 ans, ils connaissaient pas ça, ce métier-là. Là. Tu comprends? C'était formidable. Mais mon père, il rajoute, penses-tu que tu vas être capable de gagner ta vie avec ça? Fait que là, j'ai dit, mais papa, j'ai dit, si c'est ça que je veux faire, comédien, moi, tout fait ce qu'il faut. Parce que dans la vie, quand on décide de faire de quoi, que ce soit plombier, que c'est la construction, dans n'importe quoi, il me semble que toi, tu fais tout ce qu'il faut pour gagner ta vie avec ce que tu décides de faire dans la vie, tu sais. Papa, il dit, ouais, mais tu sais, on connaît pas ça. Il dit, il me semble qu'on a entendu les comédiens, sa vie d'amour puis d'eau fraîche. Ils ont de la misère à payer leurs affaires dans la vie, tout ça. J'ai dit, papa, t'as dit le mot magique? On connaît pas ça. Hey, c'est vrai. Il dit, t'es jeune, il dit, t'as la vie devant toi. Il dit, si ça marche pas, tu feras d'autres choses.
Ouais.
Alors, mon père, là, ça, c'est bien important. Il m'a permis de me tromper. Parce que dans la vie, on a le droit de se tromper. Que ce soit dans ton couple ou dans ta job, tu as le droit de te tromper et de recommencer. Et ça, c'est le plus beau message. Mes parents m'ont donné des ailes, mon gars. À partir de là, j'ai passé mes auditions. C'est Gaëtan Labrèche qui m'a préparé mes auditions. J'avais passé des auditions à l'École nationale et à Sainte-Thérèse. Mais comme ça faisait 2 ans que j'allais au cégep à Sainte-Thérèse, moi, je voulais devenir journaliste, puis j'étudiais en lettres. Fait que j'ai décidé plutôt de plonger vraiment, de laisser mes chums, puis de m'en aller voir si à l'École nationale. Voir si j'étais fait pour ça, parce que moi, j'étais bien timide quand j'étais jeune. Et puis, j'ai été accepté à l'École nationale. Puis j'ai fait mon cours, là, 3 ans, de 74 à 77. Puis tout ça, je te l'avais peut-être dit, mais je vais te le redire, c'est à partir de pas d'une erreur, mais moi, quand je suis rentré au cégep en 72, cet automne-là, au cégep de Nelgrou, ils laissaient aux étudiants le soin de faire leurs propres horaires. Ils n'ont jamais refait ça. Fait que là, il était 8 heures le matin, puis dans le gymnase, il y avait des tableaux avec le nom du cours, le nombre de crédits que ça donnait, tout ça, puis à 8 heures, ils ont dit « go » à toute la gang dans le gymnase. « Mon gars, ça courait partout. » Non, c'était quoi? Ça n'avait pas de sens parce qu'il y avait 25 espaces pour mettre 25 noms. Et quand tu avais 25 noms sur un tableau, il fermait le cours. Fait que moi, mon réflexe, c'était de prendre les cours pour avoir tous mes crédits, tu comprends-tu? Donc, je m'étais fait un horaire qui avait de l'allure, mais le dernier qui entre dans l'horaire que je m'étais fait, c'est un cours de théâtre d'improvisation donné par Sophie Clément. Et là, je me suis dit, je ne vais pas prendre ça, j'étais gêné, moi. Mais la vie ne m'a pas donné le choix. Il fallait que je le prenne. Et ça faisait pas un mois que j'avais commencé à suivre le cours. Sophie Clément, elle me garde après la classe, mon gars. Je m'en rappelle, 5 octobre 1972, il faisait soleil dehors, OK? Alors, elle me dit textuellement, elle dit, hey, arrête de niaiser, tu devrais devenir un comédien, tu as le talent pour faire ça.
Wow!
Et c'est Sophie Clément qui fait que je suis devant toi aujourd'hui.
C'est quand même.
C'est elle qui m'a allumé, mon gars. J'avais comme le OK de quelqu'un du métier. Fait que là, moi, let's go, tu sais. Fait que non, c'est vraiment, Sophie, j'ai toujours une bonne pensée pour elle. Elle, elle trouve qu'on se parle pas assez souvent, là, mais je pense à elle presque à tous les jours.
On va revenir sur le curieux destin de Marcel. Mm-hmm. Tu as dit qu'il y avait des chansons, c'est des chansons originales, c'est ça qui est spécial. Ouais, non seulement tu chantes, mais en plus, vous avez créé des tunes. C'est Luc qui les a écrits, Luc Sonneau.
Oui, Luc a écrit les paroles. C'est Frédéric Redé qui a fait la musique de ces chansons-là. Mais, le frère de Francis. Mais sur les 5 chansons, il y en a une qui est une chanson de Fernandel.
OK.
Et cette chanson-là de Fernandel m'a toujours touché. Fernandel a un répertoire de chansons. Il faisait
du One Man Show. Il y avait du grivois.
C'était très grivois. Sauf celle-là.
OK.
Celle-là n'est absolument pas grivoise. Si vous allez sur Internet, là, vous allez le voir à un moment donné. C'est comme ça, moi, que j'avais pris connaissance de cette chanson-là sur YouTube. Donc, j'ouvre mon show et je le ferme avec cette chanson-là.
OK.
Okay. Mais à l'intérieur, donc, il y a quatre chansons originales. Les paroles de Luc Sonné, effectivement. Mon grand chum. Luc et moi, là, on se connaît depuis 1980. On a fait de l'impro ensemble, tout ça. On a joué au théâtre ensemble. C'est un gars qui... Luc a fait beaucoup de mise en scène, puis il a enseigné aussi à l'École de l'humour. Je ne prétends pas être un humoriste, OK? Je ne veux pas remplacer, m'essayer ou quoi que ce soit. J'ai ma couleur à moi. Chaque personne a sa couleur, tout ça. Mais il était de très, très bons conseils. Je l'écoute beaucoup. C'est mon œil extérieur. Fait que je vais suivre beaucoup ce qu'il me dit, ce qu'il me donne comme indication. Puis on s'aime. Fait que ça, c'est bien important. J'aurais eu bien des chums qui auraient pu faire ça. Là.
Oui, Normand Chouinard, Bernard Fortin.
Denis Bouchard. J'aurais eu plein de monde. Bernard Fortin, j'aurais eu plein de monde. Mais ça a donné que, comme je jouais dans les Ladies Night avec Luc, puis on pouvait se parler, là, tout ça. Bon, j'avais déjà dit qu'un jour, j'aimerais ça faire ça. Puis c'est comme ça que ça... Comme j'étais en train de jouer Ladies Night quand est arrivé le 13 mars 2020. Là, fait que ben, c'était d'un naturel que je fasse affaire avec Luc. Là,
et comme il a fait la mise en scène de Michel Barrette, qui est un conteur aussi,
oui.
Ça va presque de soi que ce soit lui avec
écoute, toi. Puis Michel puis moi, on s'adore. Michel, je pense bien qu'il va venir me voir jouer un moment donné. Tout comme moi, j'ai déjà vu ses shows et tout ça. T'sais. Et c'est ça. Non, regarde, c'est un petit monde, notre monde. Hein. C'est pas...
Oui.
C'est un petit monde.
T'sais. Ça parle de quoi, le show?
Alors, ça pourrait s'appeler « Le monde selon Marcel » aussi. Alors, c'est un peu ma vision des choses dans la vie. Comment est-ce que je vois la vie, tout ça. Ça parle d'animaux, ça parle de chasse, ça parle de... Mais inquiétez-vous pas, là, j'en parle de la bonne façon. Il faut venir voir pour comprendre ce que je suis en train de dire là. Ça parle de la vie, ça parle de la mort. C'est ma vision des choses, ouais.
Est-ce que c'est un show qui arrive à un bon moment? Parce qu'il y a des thématiques là-dedans que tu aurais moins abordé plus jeune, par
exemple? Ouais. La vie et la mort, ça, j'aurais pas abordé ça même il y a peut-être 5 ans. Là, je pense que c'est correct. De la façon que j'en parle aussi. Puis, tu sais, dans tout ça, je me prends pas au sérieux, là. Je suis pas... tu sais, j'affirme des choses. J'ai ma vérité à moi. Moi, j'ai une vérité. Ça veut pas dire que c'est la même que la tienne. Puis moi, elle fluctue avec l'âge aussi. Il y a des affaires que je croyais, puis ça, puis qu'avec l'âge, ben ça change, puis tout ça. Fait que donc, c'est ça. C'est un peu un show aussi dans l'humeur du moment. Mais moi, tu sais, oui, la pandémie, là, c'est maudit, ces affaires-là. Puis on a perdu des gens qu'on aimait, puis ça, tu sais. Mais je reste quand même optimiste, tu sais. Ça me prend pas grand-chose, moi, pour être heureux. J'ai le bonheur facile, tu sais. Puis je pense que j'arrive à bien le transmettre, je pense. Puis c'est sans prétention que je dis ça, là. Mais je pense que, ça c'est sûr que si vous venez me voir, vous allez sortir de là, vous êtes heureux puis heureuse, là, c'est certain. Mais je pense que j'ai ça dans ma vie. Chacun on a nos forces, nos faiblesses. Moi, c'est peut-être une de mes forces d'être capable de transmettre cet état-là que j'ai de bonheur facile qui me vient de mes parents puis de mes grands-parents, tu sais.
Est-ce que c'était ce que tu voulais avec ce show-là, que ce soit un show d'espoir?
Ouais. Oui, c'est un show d'espoir. C'est comme un gros vaccin avant le vaccin final. C'est comme le gros vaccin final, tu sais. C'est la grosse piqûre, moi. La grosse aiguille.
Et évidemment, comme ça faisait un an qu'il n'y avait pas eu de show, les premiers rires que tu as entendus.
Ah, sacrifice.
Parce que déjà, tu étais ému, tu l'as dit. Avant de monter sur scène, tu étais ému. Mais là, d'entendre les premières réactions du public à Rouen.
En fait, mes premières réactions ont été... On s'est fait une générale, bien évidemment.
Fait que l'équipe
avec des amis, puis tout ça, tu sais. Puis on ne pouvait pas être... je pense qu'on était 15 personnes, tu sais. Mais ça fait rien. Ça, c'était à part Luc qui rit à mes affaires, puis... là, tout à coup, là... Puis Dominique Cuérier qui est à la régie, puis des fois, c'est Christian Barcelou qui est à la régie. Fait que à part eux autres qui me donnent des réactions, là, moi, c'était la première fois, là, tout à coup, tu sais... ma blonde, mes enfants, mes deux gars. Ça, c'est peut-être ça qui est le plus émouvant. Quand mes enfants, mes deux gars qui m'ont vu beaucoup au théâtre, mais tout à coup, ils voient leur père tout seul. C'est une scène qui se débat comme un diable dans l'eau bénite. Tu sais, puis... ce que j'aime, moi, dans le fait de cette épreuve-là, on va le dire, c'est une épreuve qu'on vit, c'est de montrer à nos enfants que dans les épreuves, on ne s'effoire pas en petite boule dans un coin à broyer sur notre vie. Moi, c'est ce que je montre à mes enfants quand j'ai des épreuves. Je me tiens debout, je tiens la barre de mon bateau et envoie par en avant. Tu sais. Et il y a de la résilience là-dedans, tout ça. Mais dans mon cas à moi, puis ça, ma blonde pourrait te le confirmer, je suis quelqu'un de très persévérant. Très persévérant. Des épreuves, j'en ai, là, comme n'importe qui, de toute façon, là, tu sais, mais à travers ce métier-là, tout ça. Et des peines aussi. J'ai des grandes joies, le fait de monter sur scène, des peines. Ça fait 10 ans que je n'ai pas fait de TV. Comment ça fait que je ne fais plus de TV? Tu comprends? Moi, je devrais être à la TV, moi, là. T'sais? Alors ça me fait de la peine. Ces gangs-là me manquent. T'sais? Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas là. Sincèrement, je ne sais pas. Mais c'est comme ça. Puis, heureusement que j'ai mes chums de théâtre qui me font travailler, puis qui me font faire des shows, puis ça. T'sais?
C'est ça. C'est une belle marque de confiance d'André puis Mario d'embarquer dans cette idée-là que tu as eue.
Oui, une grosse marque de confiance parce que en même temps, eux, c'est leur entreprise. Les productions Monarque, c'est leur entreprise à eux. Puis je suis un peu un porte-parole de Monarque quand je fais quelque chose. Alors, d'autant plus que si je le fais tout seul. T'sais. Et je le sais, j'ai été producteur. J'ai eu un théâtre d'été, j'ai produit des shows, j'ai payé des droits. Je le sais dans quelle situation ils sont. T'sais. Alors, je pense que je suis un Moses de bon soldat, moi. T'sais? J'ai déjà été un capitaine, mais je suis capable d'être un soldat aussi. T'sais?
Est-ce que ça t'aide à comprendre leur situation, puisque toi-même, tu l'as fait?
Oui. Moi, non seulement je comprends leur situation, mais quand ils me disent, hey « Marcel, ça te tente-tu d'aller faire une entrevue à Sorel avec Luc? Ben, » je fais « Oui. »« Hey Marcel, ça te tenterait-tu d'aller à Thetford Mines faire une entrevue? » Oui. Hey Marcel, il y a un journal local de, à Bécan. Oui. Moi, c'est oui. Parce que je sais que faire ça. Là, tu me fais parler de moi de ça, mais à travers ça, on parle du show, on parle d'eux autres, on parle des productions Monarque, on parle, tu sais. Fait que c'est ça. Tu sais, puis le fait d'être ouvert comme ça, moi, depuis que je te connais, à chaque fois, c'est toujours agréable de parler avec toi.
Ouais, c'est toujours le fun.
Puis, tu sais, ça crée des liens. Pourquoi j'aurais dit non? Je veux dire, pourquoi je t'aurais dit non? Il n'y a pas de raison. T'sais? Et puis, j'aurais été hyper occupé, là. Je serais hyper occupé. Je t'aurais dit oui pareil.
Ben, c'est très apprécié. On a toujours du fun avec toi.
Oui, mais c'est ça aussi, ce métier-là. Puis c'est ça, je le fais au Québec, le métier. Pourquoi je me cacherais? Pourquoi je ferais ma vedette?
Tu m'as dit tantôt que tu avais une anecdote avec Netflix et la série Le Serpent.
Écoute, il y a une série qui s'appelle Le Serpent. Si vous avez Netflix, allez jeter un coup d'œil. Ça raconte l'histoire d'un gars qui s'appelle Charles Sobrage. On est dans les années 1970, à l'époque où c'est la mode hippie. Et lui est en Inde, français d'origine, mais il vit en Inde. Et tu as des gens qui faisaient Kathmandu, tout ça, là, c'est bon. Et lui, c'est un psychopathe. Il a tué une vingtaine de personnes. Alors, lui, il assassinait des gens de son âge. Il était dans la vingtaine, lui aussi, à cette époque-là. Et puis, il prenait leur passeport, changeait les photos, mettait la sienne, puis il voyageait comme ça, quoi. Un affaire de fou. Okay? Et il a été, supposément, aidé par une Québécoise qui s'appelle Marie-André Leclerc. Bien, Marie-André Leclerc, c'était ma gardienne quand j'étais petit. Elle m'a gardé quand j'étais petit. Okay? De l'âge de 8 ans à l'âge de 11 ans, c'était ma gardienne. Parce que mon père, qui travaillait pour les chemins de fer, travaillait avec son père et elle aussi. Alors, même si on est déménagé, nous autres, on a déménagé en 67, mais mon père était transféré à Montréal, puis il avait acheté une maison à Laval-des-Rapides. Mais même à partir de 67, souvent j'entendais mes parents parler de Marie-André Leclerc qui était rendue en Inde, l'inquiétude de ses parents, etc. Puis après ça, qui a été arrêtée, parce qu'elle s'est fait arrêter dans les années 75. Elle a été 7 ans en prison en Inde. Et à un moment donné, elle a eu un cancer de l'utérus, je pense. C'est une congrégation religieuse qui a payé la caution pour la ramener en Inde, pour la ramener au Québec, pour la faire soigner au Québec. Puis en Inde, ils ont dit, un coup qu'elle guérit, vous nous la renvoyez. Mais ils n'ont pas eu le temps de la renvoyer parce que la pauvre Marie-André est décédée le 20 avril 1984. Moi, je suis natif de Lévis, puis était de Lévis, elle aussi, tu sais. Je compte ça à ma fille, Laurence, à Pâques, je dis Laurence, c'est pas quoi. Ils ont fait une série qui s'appelle Le Serpent. Elle dit, papa, tu me croiras pas. J'ai passé 2 fois l'audition pour jouer Marie-André Leclerc. T'aurais-tu vu ça? Ma fille jouer ma gardienne? Non, mais pense à ça, là. C'est complètement... Hey, moi, des affaires de même, il m'en arrive tellement souvent. Là. Ça n'a pas de sens, tu sais. Et tu fais, mais ça aurait été génial. Laurence aurait pu faire ça haut la main, là. Si tu t'as pas vu, va voir la série, ouais. tu vas voir, tu vas comprendre. Là. Puis, il y a d'autres comédiennes québécoises qui parlent très bien anglais aussi, qui auraient pu très bien faire cette série-là, tout ça, tu sais. C'est dommage parce que je sais que c'était une coprode, je sais que c'est la BBC qui a fait ça, puis il y a la France qui avait mis des sous là-dedans, fait qu'on peut comprendre qu'ils choisissent leur monde, tout ça. Puis, mais Laurence a quand même passé deux auditions pour faire Marie-André Leclerc, tu sais. Il y a Arlette Cousture qui va faire de la radio cet été et qui m'invite à faire une entrevue comme je fais avec toi. Alors, je vais faire ça dans le courant de l'été. Puis, elle m'appelle, puis ça, puis il y a son chum qui prend l'autre téléphone. On est trois sur la ligne, puis on se parle, puis ça. Puis, je raconte ce que je viens de te dire là, l'affaire du serpent. Il n'y a pas longtemps de ça. Là, à un moment donné, son chum, il dit, arrête, Marcel, il dit, moi, là, il dit, quand elle a été emprisonnée en Inde, il dit, j'avais lu à quelque part qu'elle était bien déprimée. Puis il dit, je lui ai écrit en Inde, puis elle m'a répondu, puis je vais te montrer la lettre qu'elle m'a écrit. Fait que j'ai fait ben coudon. Écoute.
Le monde est petit.
Le monde est petit, tu sais, mais...
Mais tes parents devaient capoter de savoir que c'était elle qui t'avait gardé quand ils ont su tout ce qu'elle avait fait.
Oui, mais si tu... Marie-André, là, si tu vas voir un peu la couleur de la personne, puis je suis certain que moi, de la BBC, ils n'ont pas pris le temps de regarder ça, là. Sur YouTube, là... T'as une entrevue de Marie-André Leclerc quand elle arrive à l'aéroport de Québec en 83. OK? Là, tu vois la naïveté de la personne. Tu sens que c'est quelqu'un de très, très naïf, qui devait avoir peur de ce gars-là, qui en est amoureuse aussi. Parce qu'elle avait été en Inde une première fois, fin des années 60, mais elle l'avait rencontré, mais elle avait été là avec son amoureux de l'époque. Et donc, c'est pas là que ça s'était vraiment passé. Mais quand elle est revenue à Lévis, là, ce gars-là, il lui écrivait de l'Inde à tous les jours pendant un an. Tous les jours, elle recevait du courrier, puis il l'appelait deux, trois fois par semaine. Fait qu'elle s'est dit, il est en amour avec moi. Fait qu'elle est retournée là-bas, puis est arrivé ce qui est arrivé, tu sais. Un affaire de fou, un affaire de fou. Et il est encore vivant, lui, Sobrage.
Okay.
Ouais, il est en prison à perpétuité à Kathmandu.
OK.
Ouais. Ah non, puis moi, Lévi, regarde, des anecdotes de même, je peux t'en compter plein, il va se mettre à faire noir.
Tu l'as dit tantôt, tu as fait l'École nationale de théâtre, puis en 77, tu es sorti, donc l'an prochain, ça va faire 45 ans
yes.
de carrière officiellement. Quel regard tu as sur 45 ans de carrière?
Ça a passé vite. Tu sais, quand tu... ça, c'est le même phénomène, mon gars, que quand j'étais jeune, puis que mon père, on a fêté ses 45 ans, là, je me disais, hey, mec, je n'ai que 45, moi, tu es assez vieux. J'en ai 66. Tu sais, et c'est la même chose du métier. Hey, quand j'ai commencé ce métier-là, puis hey, cette personne-là, là, ça fait 45 ans qu'elle est là-dedans, là, tu sais, Mme Ouellette, tout ça, c'est sacrifice. C'est moi là, qui arrive à 45 ans de ce métier-là. C'est incroyable, mais ça passe de même. Je ne saurais pas quoi dire, qu'est-ce que je retiens de ça, mais je retiens, mais c'est sûr, il y a une somme. Si tu regardes mon curriculum vitae, c'est certain que j'ai fait bien des affaires, mais ça passe, c'est tout où rendu, ça, à part que dans ma tête, dans mes émotions, tout ça, mais à part quelques photos, tu sais. On m'a donné, il n'y a pas longtemps, une boîte dans laquelle il y a un paquet d'affaires de Mme Ouellette.
Okay.
J'ai et c'est Rénal, c'est mon directeur de la station Radio VM qui m'a remis ça. Puis c'est des entrevues de Mme Ouellette de tout ordre, tu sais, pour la semaine, etc. Pour les journaux de des années 80, 90, tout ça. Et j'ai des cassettes où elle est interviewée. Alors il y a quelqu'un qui avait fait une entrevue avec elle. Puis, il n'a pas tout gardé, mais il mettait ça sur cassette, puis j'ai les cassettes. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Parce que moi, il faut que vous sachiez qu'elle a joué ma grand-maman dans Les Moineaux et les Pinsons. Quand j'ai commencé ce métier-là, pas longtemps après que je suis sorti de l'école, ça a été ma première série dans laquelle j'ai joué, Les Moineaux et les Pinsons. Alors moi, je m'appelais Jean-Jacques Moineau là-dedans, OK? Quand tu t'appelles le bœuf, tu joues un moineau. Mais Mme Ouellette, moi, je l'aimais, ça a été ma troisième grand-maman. Le nombre de fois que j'étais allé au restaurant avec elle après, mon gars, regarde, tu sais, puis je payais le lunch, mais c'est pas pour faire mon smart, c'était pour la faire parler, tu sais. Hey, les histoires qu'elle m'a racontées, son approche du métier qui n'est pas la même que moi, tu sais, mais c'était précieux, ça. Tu sais, quand t'es jeune, là, si tu commences dans ce métier-là, puis t'es jeune, fais parler les plus vieux. Pogne de l'expérience de même, là, tu sais.
Ben oui, puis t'apprends.
Ah, hey, puis elle, écoute, eux autres, ils jouaient... tu sais, c'est sûr qu'elle faisait du burlesque, du vaudeville, ces affaires-là, tu sais, bon. Elle jouait pas du Molière puis du Corneille, là, c'était pas... Mais Mme Ouellette, tu sais, c'était... Ils faisaient trois shows par semaine, c'était des canevas, ça, c'est la ligne du début, c'est la ligne du milieu, ça, c'est la ligne de la fin.
Ben,
va-t'en là-dedans, tu sais. Tu sais, c'était... Ils faisaient des tournées, mais dans les années 40, faire de la tournée au Québec, là, m'a dit de quoi... traîne-toi des pneus, là, parce que, tu sais... mais c'est en même temps, tu sais, puis... quand j'ai eu mon théâtre d'été, c'est un peu grâce à elle, parce que... une des choses qu'elle m'avait dites, c'est... Si t'as un théâtre, tu vas recevoir le monde dans le hall d'entrée. Moi, j'avais dit, Mme Ouellette, on va recevoir le monde. Si je joue dans la pièce, moi, demain, moi, je vais être nerveux, je vais pas... Elle dit, non, pour deux raisons. Un, pour être reconnaissant. Parce qu'elle dit, le monde qui va venir te voir jouer l'été, c'est du monde qui t'aime à TV l'hiver, ça. Sois reconnaissant. Et la reconnaissance au Québec, c'est une denrée rare, ça, OK? Puis deux affaires. La deuxième, c'est écoute ce que le monde va dire, puis ajuste-toi. Ça, c'est le plus beau conseil de business, mon gars, que j'ai jamais eu. M'ajuster. Le public arrivait le soir du monde, des fois, « Hey, on est venu l'année passée, ta pièce, c'était pas bon. Mais qu'est-ce que vous avez pas aimé? Ben, t'as fait de l'affaire. Ton forfait souper, à soir, c'était pas mangeable. » Je pense que je prenais pas des notes, mais... Même affaire quand c'était positif, tu sais. Alors donc, de se revirer Saint-Dicenne, être capable, puis ça fait quoi? Ça crée de la fidélité. C'est que le public, il voit bien qu'ils t'ont dit de quoi l'année passée, ils reviennent, tu l'as changé. Un moment donné, il y a quelqu'un qui trouvait que j'avais pas assez de bancs dehors. Ben, tu me dis qu'il y avait des bancs l'année d'après, tu sais. Mais
quand il est revenu, il était content.
Il était content. Fait que ça fait de quoi? Ça fait qu'en 99, ça m'a sauvé les fesses d'une faillite parce qu'on avait eu une pièce qui avait moins bien marché, mais les gens, ils venaient pareil parce que l'accueil des années d'avant, et ils trouvaient ça formidable. Fait qu'ils ont décidé de m'encourager, même si les critiques n'étaient pas bonnes.
Wow!
Ah non, c'est puis ça, c'est grâce à Mme Ouellette, hein.
Mais ça en est de la reconnaissance.
Oui, ça en est. Oui,
tout.
Absolument, t'as raison. Ça, c'est de la reconnaissance. Fait que, tu sais, les 45 ans, pour moi, ont passé comme... de voir aussi... je trouve ça fascinant, voir l'évolution. Exemple de TVA, qui est, quand moi j'ai commencé...
Télémétropole.
C'était Télémétropole. OK, c'était le Canal 10. OK. Et quand tu rentrais au Canal 10, il y avait un petit restaurant, il y avait un bar en entrant là, à gauche. Là, t'sais. On comprend, mais ça explique bien des émissions mais, de cette époque-là. Là. Mais donc, et ça maintenant n'existe plus, c'est plus là. Et la télévision en ce moment vit d'immenses transformations à cause de l'évolution du web, de tout ce que tu voudras. Il faut qu'ils suivent la parade aux autres mecs. C'est très, très différent. Il y a des... C'est, en tout cas, c'est ça. C'est mon regard sur mes 45 années là, à venir jusqu'à maintenant. T'sais. Mais tout va à une vitesse incroyable. C'est pour ça que la pandémie, c'est triste. Si vous avez perdu quelqu'un, c'est énormément triste. On ne l'aurait pas voulu, la pandémie. Mais en même temps, il y a un temps d'arrêt là que tu fais, OK, attends une minute, on est qui, nous autres? Pourquoi je travaille comme un cave? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis là? T'sais? Il y a ce temps d'arrêt-là, des fois, il est nécessaire. Puis, je comprends que c'est dur à entendre parce que tu dis, ouais, mais moi, il faut que je paye mes affaires. J'ai ma maison à payer. Je comprends ça, là. En une maison à payer, moi, tout, là. Je comprends tout ça, là, tu sais. J'ai des jeunes enfants. Fait que je le sais que ça peut être difficile. Mais des fois, il y a des temps d'arrêt que, sur le coup, tu comprends pas. Tu as l'impression que tu es dans la merde. Mais c'est un peu après que tu comprends pourquoi ça s'est arrivé. T'sais?
Ça va être dans les prochaines années qu'on va s'en rendre compte, en fait.
Ouais. Hey, tu sais que moi, je pourrais être Saint-Marcel.
OK, pourquoi? Mais
non, de la façon que je parle. Alors, d'ailleurs, ça existe, des Saint-Marcel et de nous au Québec. Hein?
Pas loin, Saint-Marcel sur Richelieu.
Oui.
Tu vas jouer pas loin cet été parce que tu vas être à Drummondville une partie de l'été.
Oui.
Donc, les gens pourront aller te voir à
au mois d'août. Oui.
Et tu vas être à l'Assomption aussi.
À l'Assomption, oui. Je suis à l'Assomption au mois de juillet. Drummondville au mois d'août. Puis je vais faire, j'ai quelques dates là, ici et là, autour, tout ça. Comme tu vois, mercredi prochain, je suis au 10-30. Après ça, deux jours plus tard, je vais être à Lévis à l'Anglicane, dans mon patelin. Mais c'est ça, je me promène. Je commence, ça commence là. T'sais.
Est-ce que c'est spécial quand tu vas à Lévis? Parce que c'est là où tout a commencé.
Oui. Oui, puis c'est spécial parce que d'être sur le bord du fleuve. Là, aujourd'hui, c'est ce qu'on est. On est sur le bord du fleuve. Ouais. Mais moi, mon enfance, je l'ai passée sur la rue Fraser à Lévis. c'est la rue qui longe la falaise. Si vous prenez le traversier entre Québec et Lévis, il y a un escalier rouge côté de Lévis qui longe la falaise. Moi, je restais en haut de ça. Okay. Alors moi, mon enfance, là, mon terrain de jeu, c'était le château Frontenac en face. Wow. C'était le fleuve, l'île d'Orléans à ma droite, quand je regardais le fleuve. Ça, c'est... Alors, tu sais, c'est... Ah, c'est ça, quand je suis là, moi, c'est certain, regarde, c'est une place que j'adore. Le vieux Lévis, c'est tellement beau, en plus. C'est inspirant. Ouais.
Est-ce que le tri dans tes anecdotes a été difficile à faire au début? Parce qu'évidemment, toi, t'en as une puis une autre, une anecdote, mais il faut pas que ça dure 8 heures. Là,
non, c'est ça. Oui, effectivement, le tri a été dur à faire. Tu sais, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit pas, pour l'instant. Tu sais, si j'aime bien ça, il peut y avoir
un autre deux,
tu sais. Mais, ouais, mais ça, c'est Luc. Ça a été le travail de Luc, de trouver un fil conducteur à tout ça. Comment est-ce qu'on s'exprime là-dedans?
On rattache tout ça ensemble.
Comment on rattache ça, oui.
Et là, tu es parti avec ça pour un bout, là. Ça va
j'espère. Être... J'espère. Tu sais, puis c'est quelque chose que tu peux ramener, qui n'est pas. Des conférences, j'en ai fait 2800 quelques. J'espère bien être capable de faire ça quelques fois. Non. Puis on va voir. Ça n'empêche pas que j'ai hâte de retrouver une gang sur scène. J'ai hâte de me retrouver avec d'autres mondes. Comprends-tu? Ça me manque, ça, le rapport avec d'autres. Tout ça, mais. Mais ça va venir, ça va revenir, ces affaires-là. Puis,
Et d'ailleurs, Ladies Night devait s'achever. C'était la dernière partie de tournée qui a été évidemment écorchée par la COVID. Vous n'avez pas pu faire vos dates, mais là, ça va revenir. Ça va être repris, ces shows-là.
Oui, c'est ça.
Il y avait la place des arts, entre autres, dans ces dates-là.
Oui. Là, il est question qu'on reprendrait en mars 22. Maintenant, est-ce que ça serait la fin? Je suis pas sûr. Je pense que là, ça fait déjà 2 ans qu'on va être arrêté. Je pense qu'on va avoir le goût de refaire ça. Là, puis, moi, tant que je serai pas en marchette, je peux le faire.
C'est un show très physique. Est-ce qu'il y a des soirs où c'est plus difficile que d'autres?
Ouais, c'est sûr que tu sais des fois tu fais bon, surtout si on a fait ben de la route avant d'arriver là. C'est surtout ça. Moi, c'est pas tant le fait de jouer. L'énergie qu'on a sur scène, quand tu commences à jouer, il y a une énergie qui embarque. Mais c'est le avant puis le après. C'était de la route à faire. Parce que moi, je reste pas nécessairement tout le temps accouché à l'endroit où on est. Fait que parce que comme on dit, une overdose des hôtels. Je suis plus capable. Les chambres d'hôtel, moi, je suis plus capable. J'aime mieux faire 10 heures d'auto, aller dormir dans mon lit, qu'aller dormir à l'hôtel. Oui, je fais comme ça.
J'imagine qu'il y a des endroits où c'est plus difficile que d'autres.
Ouais.
C'est sûr que quand on commence à être
habitué... C'est ça, à 66 ans, mettons que je vais... Tu regardes, si je sens que j'ai pas la force de le faire, je le ferai pas, là. Tu sais, je vais pas mettre en danger, surtout pas l'hiver, parce que des fois, les routes sont difficiles. Mais non, quand je vais jouer à Lévis, je reviens chez nous, là. Je reviens au Mont-Saint-Hilaire, là. Oui.
Et là, tu continues tes produits de l'érable aussi, j'imagine. Les gens peuvent t'écrire.
Oui, je continue de faire mes livraisons avec mon beurre d'érable, mon sirop, tout ça. Puis mes petits produits aussi, mes gelées, mes confitures faites à partir du jus de raisin de mon vignoble. Alors, les gens peuvent venir. Mon site Internet, c'est le domaine de Corelieu. Corelieu, c'est 2 R, hein? Corelieu. Le domaine de Corelieu, @gmail.com. Mais si vous faites Marcel Leboeuf, il y a des bonnes chances que vous allez arriver à mon site, là.
C'est toi qui fais les livraisons, en plus.
C'est moi qui fais les livraisons.
T'es
venu
chez nous, d'ailleurs.
Le monde n'y croyait pas ça. Et puis, quand je sonne à la porte et qu'il ouvre la porte, il fait « Ah! C'est vrai! » c'est vrai. C'est moi qui dis qu'il le fait, c'est moi qui va le faire. Tu sais, si c'était quelqu'un d'autre, j'enverrais quelqu'un d'autre, mais là, c'est moi qui ai fait. J'adore ça. J'adore ce contact-là avec le monde. Les gens sont gentils. Contrairement aux des fois, j'avais fait des marchés, puis ça, tu sais, puis c'est pas tout le monde qui est fin. Mais dans les livraisons, les gens, ils commandent
à toi. Ils t'ont
commandé à toi,
ouais.
Fait que c'est vraiment toi qui vas le voir, là. Donc, ça, c'est. Parce que pas tout le monde qui est fin, hein.
Non.
Non, puis c'est pas parce que t'es connu que. Allez pas penser que le monde sont fin parce que t'es connu, hein. J'avais vu toutes sortes de monde.
Oui. Marcel, merci d'avoir été là.
Bien, ça me fait bien plaisir.
J'ai invité les gens à aller voir ton spectacle, Le Curieux Destin de Marcel, entre autres à Drummondville, du 30 juillet au 14 août, mais on peut suivre les dates sur le site des productions Monarque directement.
Oui, puis cet automne, les gens de Saint-Hilaire vont pouvoir me voir parce que tu sais que je vais...
Tu te présentes aux élections.
Je me présente aux élections. Je m'essaye comme conseiller municipal. Alors donc...
On va des pancartes Marcel Leboeuf à Saint-Hilaire?
Je suis pas sûr qu'on va faire des pancartes. On va sauver sur le papier un peu.
Moi, je comprends.
Non, je vais faire du porte-à-porte. Moi, c'est ce contact-là que je veux. T'as vu?
As-tu essayé cette expérience politique-là? C'est une autre affaire.
Oui, puis tu sais, c'est aussi dans un souci... Regarde, encore une fois, c'est sans prétention, mais moi, je pense que c'est primordial de protéger le piémont de la montagne, entre autres de Saint-Hilaire, mais toutes les montagnes de la Montérégie, on devrait penser au piémont. Donc, c'est au pied de la montagne, une centaine de pieds, si tu t'accotes sur le pied de la montagne, puis tu descends un peu, là. Et puis, dans mon coin, bien, moi, je crois beaucoup à l'agriculture en milieu urbain. J'en suis la preuve vivante. J'ai un petit vignoble. Donc, je pense qu'il faut se garder des espaces pour cultiver en ville. Oh. Avoir que c'est bon pour l'œil, c'est bon pour le moral, c'est bon pour les oiseaux, c'est bon pour tout. T'sais? Et puis, ça en prend des maisons. Ça s'enlève rien. Ça prend des maisons. Il y a des places pour faire ça. T'sais? Mais préserver le plus possible. On a un patrimoine extraordinaire à Saint-Hilaire au niveau de la végétation, des oiseaux, les plantes de sous-bois, les couleuvres, les grenouilles. On nomme-la toutes, là. On les a toutes, là. T'sais? Fait que je pense qu'il faut faire un effort de protection. C'est d'essayer de voir avec les gens qui veulent tellement développer, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Il doit y avoir un partenariat qu'on peut faire, jamais je croirais.
Marcel, merci d'avoir été là aujourd'hui.
Hey, merci, Luc.